le fou du roi.
Bonjour à tous et bienvenue dans le fou du roi avec nous ce matin, Michaël Quiroga.
Bonjour.
Frédéric Martin.
Bonjour.
Agnès Michaud.
Bonjour.
Julia Verne.
Bonjour.
Et Patrice Sarmouze. Au menu de l'émission, nous recevrons dans un instant, bah, tout à l'heure, Sonia Imloul pour son livre « Enfant bandit » aux éditions du Panama. Ça fait froid dans le dos. Nous entendrons également le chanteur Christophe Colin, le groupe américain The Blakes. À 12h05, la chronique à la carte de Régis Maillot. Vous savez que Didier Porte est à Luxembourg aujourd'hui. La chronique sportive de Daniel Morin.
Avec ses valises.
Et j'imagine, il va avec, toujours avec ses valises.
Ah ben voilà, en fait.
Et nous retrouvons au piano Franck Gélibert.
Bonjour. Et aujourd'hui, nous avons avec nous les quatrièmes du collège François-Albert de Selles-sur-Belle, dans les Deux-Sèvres.
Très bien, soyez les bienvenus. L'émission est faite pour vous. Vous allez voir, vous allez apprendre plein de choses. Juste avant le week-end, moment privilégié du repos neuronal hebdomadaire, nous avons invité à ce micro un homme terriblement futile et frivole qui a toujours refusé de se poser les grandes questions existentielles pour éviter un claquage au cerveau. À dire vrai, je me moque parce qu'une nouvelle fois, ce généticien célèbre et reconnu m'a mis le nez dans mes lacunes philosophiques en publiant un livre d'entretien avec Christian Godin au titre vraiment désopilant « L'homme, le bien, virgule, le mal ». Et sinon, vous faites quoi ce week-end? Serait-on tenté de lui demander? Pour ma part, je terminerai d'annoter un ouvrage passionnant, mais comment dire, très copieux, dans lequel il confronte sa morale sans transcendance divine aux grands problèmes du moment et qui nous intéressent tous, l'euthanasie, le clonage, la procréation assistée, etc. Vous l'avez reconnu, et c'est Axel Kahn, notre invité. L'homme, le bien, le mal, c'est publié chez Stock. Patrice, vous avez...
Ouais.
D'abord, merci Axel Kahn d'être venu nous en parler. Parce qu'on avait besoin, moi j'avais besoin d'une traduction, donc je suis ravi que vous veniez nous la donner ce matin.
Non, le propos, le fond du propos est à la fois passionnant et simple, c'est de dire au fond, dans un monde qui est technique, enfin dominé par la technique, comme disait Heidegger, enfin, et qui est dans lequel toutes les découvertes sont de plus en plus rapides, tous les progrès, entre guillemets, enfin les avancées, notamment de la science et de la biologie, sont de plus en plus rapides et remettent en cause tout ce qu'on croyait savoir sur la vie, le début de la vie, la mort, etc., toutes nos certitudes. Comment distinguer ce qui est bien et ce qui est mal, hein? C'est ça le propos du livre.
Il a tout compris.
Oui. Voilà.
Enfin, il répète le titre. Ouais. Hein,
non, non, mais non, mais c'est vrai que c'est compliqué. Quand vous
surtout,
avez,
surtout qu'il s'affranchit
à cette vitesse-là.
La difficulté supplémentaire, Axel Kahn, vous me direz si je me trompe, c'est de s'affranchir de la morale divine
sans transcendance.
Sans transcendance. Au contraire, vous bâtissez toutes vos convictions sur une morale laïque.
Voilà, je pars en fait d'une des répliques extrêmement célèbres des frères Karamazov de Dostoïevski. Ivan Karamazov s'écrit à un moment donné, totalement effrayé, « Mais alors, si Dieu n'existe pas, tout est permis ?» Et je pose la question, est-ce que tout est permis puisqu'il y a tant de personnes qui considèrent que Dieu n'existe pas? Je pose également une autre question. Quand on fait un truc, n'importe quoi, on décide. Alors des fois on le fait parce qu'on a envie de le faire, parce que c'est son intérêt, des fois au hasard, mais assez souvent, on a encore le choix. Et on va faire un truc parce qu'on considère que c'est bien, et on va essayer de ne pas faire un truc parce qu'on trouve que c'est pas bien. Mais quelle est la référence? À partir du moment où il n'y a pas de référence divine, il n'y a pas de loi révélée, ou du moins on ne s'en réclame pas, comment déterminer ce qu'est une action bonne et une qui ne l'est pas? Voilà en quelque sorte ce que j'essaye de dire.
En fait, vous dites que c'est l'autre qui en fait vous donne la notion
réponse,
de bien et de mal.
Parce qu'il donne la réponse. Voilà,
il donne la réponse.
Voilà, au fond, il dit, moi je vais arriver à distinguer le bien et le mal.
Mais parce que c'est l'autre, c'est toujours autrui qui vous enrichit, c'est toujours autrui qui vous apporte la réponse.
Voilà, je pars de deux éléments. Le premier élément, c'est que vous imaginez au tout début des temps humains, il y a nos ancêtres, les grands singes, là, qui ne sont pas encore humanisés. Imaginons que notre ancêtre ait été unique. Jamais l'homme n'aurait pu émerger. Parce que pour arriver à profiter des gènes qui nous permettent d'être femmes et hommes, avec la brillante intelligence, l'humour qui se manifeste ici, il faut non seulement avoir des gènes humains, si vous aviez des gènes de chimpanzé, vous auriez un humour de chimpanzé, c'est clair. C'est parce que vous
c'est
aviez...
Pas mal, c'est pas vous mal, allez ça. Voir, on peut...
C'est pas le même
vous
endroit.
Serez surpris, certains ont un humour de chimpanzé.
Je ne réponds de rien quant à la suite. Mais c'est néanmoins parce que vous avez des gènes humains que vous pouvez vous comporter comme cela, mais il n'y a pas que ça. Si vous aviez eu des gènes humains et que vous aviez été seul, alors vous n'auriez
l'enfant
absolument
sauvage.
Pas permis l'efflorescence de ces capacités. Pour avoir permis l'efflorescence des capacités, il faut deux personnes qui s'humanisent l'une l'autre. Chacun se voit dans les yeux de l'autre. Et à partir de ce moment-là, ça veut dire que l'autre, parce qu'il est totalement indispensable à ce que l'on devienne une femme ou un homme, l'autre a droit à une réciprocité, en d'autres termes. L'autre est justifié à se réclamer des valeurs dont on se réclame, etc., etc.
Oui, mais alors, est-ce que tu aimes ton prochain comme toi-même ? Ça peut s'accorder à ça.
Naturellement. Et je pense que ça n'est pas du tout la parole religieuse qui est à la base de « tu aimeras ton prochain comme toi-même oui, ». C'est à l'inverse. Toutes les religions sont ressaisies de cette évidence parce qu'elle est la condition fondamentale d'émergence de l'homme. Et la notion, l'aptitude au bien et au mal est antérieure en ce sens à toute religion.
Alors est-ce que si on se faisait l'avocat, non pas du diable, mais de Dieu...
Mais je veux bien que vous fassiez l'avocat du diable.
Mais de Dieu, on pourrait quand même se dire que finalement, nous vivons dans un monde matérialiste. Être généticien, c'est être de plein pied dans la science et la pensée matérialiste, est-ce que ce n'est pas l'ultime tentative d'aller récupérer tout le territoire, c'est-à-dire d'aller aussi dans la morale, la métaphysique et voilà.
Vous avez remarqué tout de même que je dis que la notion de bien et de mal n'est pas dans nos gènes. Elle est dans vous et dans moi.
Et d'ailleurs,
par conséquent, cela montre une certaine humilité de la part du généticien que je suis, chère madame.
Mais d'ailleurs, dans le livre, il y a des ambiguïtés. Il y a des ambiguïtés parce que...
Les gamins, quand vous suivez plus, vous voulez voir. Non mais c'est important aussi, vous voyez. Alors, qu'on voit l'évolution de l'espèce humaine en direct.
Vous pouvez poser des questions.
Stéphane Bern, il y a un problème, c'est que dans ce livre, je parle également de la moralité de la pornographie, compte tenu de l'assistance,
oui,
on n'y fait pas allusion.
On va parler d'anthropophagie.
Il y a vos limites, d'ailleurs, que vous... Oui, les limites du territoire scientifique. Vous étudiez des phénomènes, et pourtant, en étudiant des phénomènes, il y a des choses qui vous restent invisibles. Par exemple, l'esprit est quelque chose qui n'est pas matériel. La vie est quelque chose qui n'est pas matériel. Alors, mais vous le dites d'ailleurs dans le livre.
Absolument.
Il y a des
moments de limite. Ce que je dis, mais parlons de l'esprit. Il faut être clair de ce point de vue-là. Si vous étiez décérébré, votre esprit serait assez plat. C'est bien parce que vous avez la matérialité d'un cerveau que vous êtes capable d'engendrer une pensée, c'est-à-dire l'esprit. Donc, il est juste de dire que la condition pour que l'esprit s'envole, c'est effectivement la matérialité d'un cerveau conditionné par les gènes. En revanche, une fois que l'oiseau esprit a pris son vol se libère en quelque sorte de la matérialité des conditions qui ont permis son envol.
Ça,
voilà ce que l'on peut
qu'est-ce
dire.
Qu'est-ce qui vous fait dire ça ? Parce que après tout,
il a envie.
Plus on avance.
J'ai envie, mais je suis capable également de le spécifier.
Plus on avance dans les connaissances biologiques, plus on a l'impression que toutes les réactions qu'on a viennent de phénomènes biologiques. Enfin, il y a d'ailleurs toute une série de scientifiques qui tiennent ce discours-là.
Oui, c'est vrai qu'il y a un grand courant scientifique qui est,
le
comme on dit, réductionniste. Qu'est-ce qui se passe ? Il y en a qui considèrent... Le réductionnisme, c'est les gens qui regardent un truc aussi compliqué qu'un cerveau. On se met de mieux en mieux à connaître les gènes, les cellules, les synapses, les machins, les trucs, les circuits. Enfin, c'est compliqué. Je ne rentre pas dans le détail. Et qui disent la totalité de la manifestation de l'esprit, c'est-à-dire la poésie, la musique, l'amour, l'envie, le désir, que sais-je, les manifestations de l'esprit sont réductibles à ces gènes, à ces cellules, à ces synapses. Moi, je ne le suis pas. Je dis que pour manifester du désir, de l'amour, pour avoir une émotion esthétique, il faut avoir un cerveau humain avec des gènes humains. En revanche, ce qu'a permis le cerveau humain ne dit pas ce que sera la richesse de cette production.
Ne révèle pas certains mystères.
Voilà. Donc, il n'y a pas, donc l'inverse n'est pas vrai.
C'est-à-dire,
sans cerveau, il n'y a pas d'esprit, mais l'esprit... Il a une certaine autonomie et il ne peut être étudié qu'à travers la particularité de cet envol de l'esprit libéré de son perchoir.
Et d'ailleurs, ce qu'on voit dans votre livre, c'est que, justement parce que vous êtes scientifique, être un matérialiste pur, c'est rare.
Oui, moi je suis un matérialiste pur, mais pas un réductionniste. Je suis un matérialiste pur, si vous voulez, c'est-à-dire que je considère qu'il n'y a pas à faire une autre hypothèse que les propriétés de la matière à un niveau extraordinaire d'organisation pour expliquer la diversité de la vie, y compris de la vie intellectuelle. Pour autant, je dis que la richesse de vos pensées, chère madame, ne sont pas réductibles à votre cerveau, et quand bien même je connaîtrais votre cerveau absolument par cœur, dans le détail, je saurais très peu de choses de vos désirs et de votre génie.
Et de l'apparition des idées, qui est un domaine qui vous concerne très directement. L'idée, c'est difficile point de vue matérialiste.
Alors, l'idée, c'est un des résultats de la fonction du cerveau, quand même. Hein. Alors, on ne peut pas dire que le cerveau secrète des idées comme le rein secrète de l'urine, ce serait un peu réductionniste. Il n'empêche que, entre le cerveau et les idées, il y a quelque chose à voir. Simplement, ce qu'il faut imaginer, c'est que le cerveau est la condition matérielle sans laquelle il n'y a pas d'idées. En revanche, la connaissance du cerveau ne dit pas la richesse des idées qui peuvent être proposées avec ce cerveau-là.
Ça, je suis d'accord. On a le sentiment. Là, je me suis dit, tiens, on est plus sur France Inter. On est basé sur France Culture.
Bienvenue sur France Culture.
Non, mais moi, je trouve que la science rend pas les gens. Finalement, quand on vous lit, c'est un peu par moments assez déprimant parce qu'on a l'impression que ça rend pas l'homme très heureux, tout ça.
De quoi ?
Cette avancée de la science, ce fait de pouvoir.
Mais ça, c'est le vrai.
Vous n'êtes pas gentil de me dire ça. Je suis hilar, là. Je suis avec vous, je suis bien. Je suis un homme parfaitement heureux.
Heureux. Ça, c'est le fond du problème, alors qu'un certain nombre de scientifiques d'ailleurs abordent. C'est-à-dire que c'est vrai qu'on est dans un monde où, enfin, pour reprendre une image assez classique, mais on est comme des gens qui sont à vélo, qui continuent de pédaler parce qu'il faut avancer sinon on se cassera la gueule, mais on ne sait pas où on va. On est quand même dans ce monde-là. Et les scientifiques et des biologistes, comme Jack Testard, disent bon, moi j'arrête parce que je ne sais pas où je vais, je préfère arrêter. Vous, comment vous vous positionnez par rapport à ça ? Est-ce que vous savez où vous allez, au fond ?
Est-ce que je sais où je vais ?
Mais c'est un vrai problème. On est obligé de.
Mais laissez-le répondre. Non, mais c'est pas où il va.
Laissez-le parler. Il faut que j'exprime lui aussi, quand même.
Vous êtes obligé de faire.
Il est terrible, Stéphane Bern.
On voit bien avec sa pensée que lui, c'est pas où il va.
Vous êtes obligé de chercher, vous êtes obligé de trouver, vous êtes obligé d'avancer. Est-ce que vous avez un but, une finalité à tout ça ?
Bon. Naturellement, je ne sais pas exactement où je vais, mais je sais là où je ne veux pas aller.
D'accord.
Et c'est un peu ça l'idée. Il y a beaucoup de hasard dans les péripéties de notre vie. Très souvent, on prend à un moment donné une décision parce que ça s'est trouvé comme ça. Est-ce que c'est le but que l'on avait de toute éternité, au moins depuis l'origine de ces jours dans la vie ? Évidemment pas. Moi, je suis maintenant président d'une grande université parisienne. Je vais vous dire, ce n'était pas du tout dans mes projets. Et une semaine avant de me déclarer candidat, j'avais absolument jamais imaginé que cela fût possible. Donc, il y a vraiment un élément de hasard.
D'ailleurs, il y a un élément du titre qui presque aurait dû être traité avant tout le reste. C'est qu'est-ce que l'homme ? Parce que
oui,
si vous ne répondez pas à cette question...
Agnès, ça ne va pas femme. Être possible, Agnès. Non. Agnès, vous êtes trompée d'antenne.
Ce que disait Julia, c'est très symptomatique quand elle dit...
J'ai fini de lui répondre quand même.
C'est désespérant, je pense que ce qu'on ressent inconsciemment, c'est notre humanité... En quoi elle est en danger dans un monde matérialiste, dans un monde scientiste, scientifique ? Voilà, c'est
alors,
ça.
Alors, j'ai essayé de vous répondre en un mot, mais je vais finir de lui répondre tout de même. Vous avez remarqué, je suis assez cohérent, donc je...
Vous êtes plutôt scientifique.
Voilà.
Bon, vous allez où ?
Bon, donc
où,
en tout cas,
vélo.
en y allant, même si je ne sais pas où je vais, en y allant, c'est sûr que je considère qu'aucune de mes actions ne peut être justifiable si elle n'implique pas le souci de l'autre, à un moment donné. C'est-à-dire, le souci de l'autre, c'est la définition, effectivement, de ce qu'est l'action bonne. Je vais donner le résultat. On appelle bien tout ce qui manifeste l'évidence de l'importance de la valeur de l'autre, et on appelle mal tout ce qui, à l'inverse, véritablement le nie. Ça, c'est un premier élément. Le deuxième élément, c'est que je considère qu'il n'y a jamais de valeur morale dans le gâchis. Donc, si, éventuellement, j'ai les moyens intellectuels pour créer dans différents domaines, alors ce serait un gâchis de ne pas le faire. Donc, je vais essayer de créer, en fonction de mes capacités, dans le respect de l'autre. Ce sont des règles qui déterminent la manière dont j'y vais, même si je ne sais pas où je vais.
Et si vous voulez une troisième raison, vous la saurez après la musique. Mais nous recevons maintenant le chanteur Christophe Colline. C'est un nouveau venu dans l'univers de la chanson française. Ses influences à lui sont à chercher dans la pop anglo-saxonne et dans la chanson des années 70. Il sortira au mois d'avril son premier album, Septembre et quelques kilomètres, qui permet de découvrir un univers mélodique, mélancolique et attachant. Et Vieux Rose, c'est le titre qui nous interprète en avant-première, en direct, ce matin dans Le Fou du Roi. Voici Christophe Colline.
Une tasse d'angoisse, symbole d'air. Et le Vieux Rose est de retour. Une tasse d'angoisse, symbole d'air. Et le bleu est azuré. Paul met son tweed et puis ses boots et sort par le fond du jardin. Il se dit tiens, les Haussiens sont partis bel et bien partis. Paul se dirige vers le bout pour passer prendre le journal. Il se dit là je vais mieux. Quand je suis calme je vais mieux. Et c'est à la sortie du bourg, au panneau plage de kilomètres, il se dit j'inviterai peut-être Élise à la fin de septembre. Élise, Élise, Élise à la fin de septembre. Élise, Élise, Élise à la fin de septembre. Élise à la fin de septembre. Élise à la fin de septembre. Une tasse d'angoisse, symbole d'air. Et le vieux rose est de retour. Une tasse d'angoisse, symbole d'air. Et le bleu est azuré.
Merci.
Christophe Colline, on le retrouve en deuxième heure en compagnie de Franck Gélibert. Nous sommes toujours avec le professeur Axel Kahn pour son livre « L'homme, le bien, le mal ». C'est publié chez Stock. Et maintenant, eh bien, nos intellectuels de service vont s'en donner à cœur joie. Je laisse la parole à Frédéric Martin, en chanson tout cela.
Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, les muchachos, les muchachas, c'est avec le concours de l'Orchestre Philharmonique de Radio France que je vais avoir le... que je... Ah, c'est avec Franck Gélibert au piano... que je vais avoir l'honneur de vous interpréter la Java des codes génétiques. À l'école, Axel Kahn était, je crois qu'on peut le dire, une bille en gymnastique. Un peu comme Johnny Hallyday, c'était un vrai génie en maths, en sciences physiques. Mais là où il était un peu l'égal d'Evangélie, c'était en biologie. Quand il disséquait un crapaud, il se faisait un collier à base de ses boyaux. Axel Kahn, aujourd'hui, il est généticien. Et ben moi aussi, généticien. J'ai un Yorkshire, deux Chihuahuas, généticien. Et du coup, génétique. Enfin, j'ai surtout des puces. Pour faire comprendre aux auditeurs la biologie moléculaire, il faut du beurre. Car faire rentrer dans une oreille une théorie pareille, c'est un sacré labeur. D'abord achetez des carrés en sac, ce sont des petits bonbons, puis prenez de la colle. Fabriquez un escalier, mais en colimaçon, sans qu'il se dégringole. Ça vous fait un ADN, c'est le truc qu'on a dans les gènes. Alors, ce qui est vachement bien avec Axel Kahn, c'est qu'avec lui, on peut aussi apprendre l'anglais. Exemple, ce qu'Axel peut faire, Emmanuel ne peut pas le faire. Car Axel Kahn et Emmanuel Kant. Isn't it? Mais il y a comme un hic. Car si tu vas dans une prison, la surpopulation, c'est le début du pire. Sous la douche ou bien en cellule, là où il y a du gêne, il n'y a pas du plaisir. Alors Axel Kahn, son frère, c'est Jean-François Kahn, le journaliste, et il a un frère qui lui est pompiste et qui s'appelle Jerry. Jerry Kahn. Qu'est-ce que je ris, Kahn ? Le clonage thérapeutique, Axel Kahn a dit non. Pourquoi ? Il s'en explique. Si demain tu te fais renverser par un chauffard bourré, tu te retrouves en clinique avec les deux jambes explosées, les organes atrophiés et la vessie qui tombe. C'est Dolly la brebis qu'on greffera sur le dos et tout le monde voudra te tondre. T'auras à l'air d'un con tout le temps. Voilà ce que diront les gens. Hello Dolly, ouais c'est toi, Dolly, tu ressembles à Stéphane Bern, c'est très marrant, arrête, arrête, arrête. Voilà. Axel Kahn aime se définir lui-même, et c'est pour ça qu'on l'aime, comme un grand humaniste. Car lorsqu'en 2007, un certain monsieur Sarkozy eut des propos fascistes, arguant que tous les pédophiles portaient en eux les gênes de leurs futurs outrages, Axel Kahn s'est interposé, mais l'odieux personnage eut quand même l'Élysée. Un con, devant ce résultat, ne se dégonfla pas et joua les andouilles. Il s'appelle Thierry Mariani, et devant les médias, le voilà qui bafouille. Je propose que l'on utilise dans le cadre du regroupement familial, vive la science, les tests génétiques pour qu'on mette beaucoup plus de noirs dans les avions d'Air France. On était dans l'embarras, Axel le condamna avec l'aide du Sénat. Mais Sarko reconnaissant le nommera certainement dans le gouvernement.
Martin. Et Franck Célibert au piano.
Il s'est surpassé là. Hein.
Oui, oui, oui. Ah, ouais.
Merci. J'ai un poste de chargé de cours à l'université, je vous prends.
Non, alors parlons, parce que c'est bien joli d'avoir établi comme ça ce qu'était le bien, ce qu'était le mal, mais essayons d'affronter, de comparer ces indications au grand problème de notre temps. Je pense, par exemple, en ce moment, on parle beaucoup du cas de Chantal Sébir, évidemment, qui nous bouleverse tous, parce qu'on comprend que cette femme est en vie d'en finir. Et voilà, il y a un problème sur l'euthanasie en France. Tous les pays européens ont avancé et nous, on s'en tient à la loi existante. Alors oui. Que la société est prête à aller plus loin. Elle...
Vous avez raison, Stéphane Bern. Sauf que la loi française aujourd'hui permettrait parfaitement de traiter humainement le cas de cette malade. Cette malade a une affection abominable. Elle dit que la vie est impossible, qu'elle ne veut pas la poursuivre, qu'elle souffre. Donc il faut naturellement, et c'est le rôle de la médecine, il faut naturellement la calmer de ses douleurs et physiques et psychiques, et cela veut dire éventuellement l'endormir totalement. Et comme la loi Leonetti indique que la réanimation pour un cas comme cela n'est pas obligatoire, si la médecine, c'est dans la loi, lui donne ses calmants qu'il l'amène avec sa famille très calmement dans la maison à s'endormir sans réanimation, eh bien, elle s'en ira très progressivement en 2-3 jours sans aucun problème. Et ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi on ne l'a pas fait. La loi existe. Malheureusement, dans cette affaire-là, il y a un autre aspect. C'est qu'il y a un groupe, d'ailleurs, admirable pour la conviction qu'il déploie, qui est le groupe Mourir dans la dignité, qu'il veut absolument que dans la loi, on inscrive l'autorisation d'une injection létale, c'est-à-dire d'un geste dont le but est de tuer quelqu'un. Et qui, effectivement, quand il y a des cas extraordinairement dramatiques comme cela, les monte en épingle pour ce combat qu'il mène avec, je le dis, beaucoup de courage. Mais honnêtement, je crois qu'il y a une certaine instrumentalisation aussi de ces cas-là. Car dans ce cas-là, cette malade, il n'y a aucun problème pour traiter humainement son cas.
Ils disent qu'il y a des cas où la loi Leonetti ne s'applique pas. Et que dans ces cas-là, évidemment, il faut...
Vous savez, c'est pas vrai. Bon, cette malade est en parfait état. Cela étant dit, lorsqu'un médecin ne peut plus guérir, et apparemment c'est le cas chez cette malade, il se doit encore de soulager, car une douleur, qu'elle soit physique ou morale, non réclamée, calmable et non calmée, c'est une obscénité. Et par conséquent, il faut naturellement calmer cette malade, quitte à la mettre dans un coma léger. Et comme la loi Leonetti autorise à ne pas réanimer, eh bien voilà, l'affaire est réglée. Je veux dire, honnêtement, il n'y a pas de problème. La loi française permet humainement de traiter ce cas sans... C'est un problème, vous comprenez. La loi aujourd'hui nous dit qu'il ne faut pas tuer. Il y a déjà deux exceptions. Les deux exceptions, c'est la légitime défense et la guerre. Faut-il rajouter une troisième exception ?
Les moustiques.
Les moustiques, tuer les moustiques.
On parle des êtres
humains.
Pas
tuer, il ne faut pas tuer les êtres humains, mais ils ont le droit de se taper dessus pour écraser les moustiques. Faut-il rajouter une autre exception ? Faut-il que le médecin, dans son geste, ait pour but non pas de soulager et de calmer, mais de tuer ? Avouez que ce n'est pas si simple que cela. Si c'est absolument indispensable, on va en parler. Mais simplement, ça n'est pas indispensable avec le dispositif actuel. Ça n'est pas indispensable. Mais
c'est, vous qui êtes moraliste, justement, est-ce que ce n'est pas bien qu'il y ait comme ça une barrière qui soit mise, même si on peut dépasser cette barrière dans certains cas ?
Moi, c'est ma position. Exactement. Comme vous l'exprimez parfaitement, je vous laisse la parole.
Alors, parlons autre sujet, la procréation assistée. Et on terminera avec le clonage thérapeutique. Alors, la procréation assistée, vous expliquez d'ailleurs dans le livre, vous revenez sur ce sujet, et souvent dans des femmes de 55, 60 ans qui veulent, par exemple, avoir un enfant.
Honnêtement, comme vous savez, Yves Montand, Picasso...
Les mecs peuvent le faire.
Voilà, oui. Ont eu des enfants extrêmement tard, et il n'y a absolument aucun jugement moral négatif pour qu'une femme de 55 ans, les femmes vivent en moyenne aujourd'hui 81, 82 ans, à 55 ans, elles sont belles, elles sont séduisantes, elles sont actives, etc., etc., que cette femme ait envie d'avoir un enfant ne soulève de ma part aucune réprobation morale. C'est parfaitement clair. Aucune réprobation morale. Maintenant, des problèmes médicaux peuvent se poser, c'est-à-dire est-ce qu'il n'y a pas plus de risques ? Est-ce que pour le gamin... Les gamins sont très très attachés, effectivement, à présenter leur belle-maman qui vient les chercher à l'école. Là, ça sera plutôt leur maman qui aura l'âge de la grand-mère. Quelles peuvent être les conséquences ? On peut poser ces problèmes, mais pas au point d'y avoir une sanction morale. Cela dit, ce qu'on peut considérer même, c'est que la société est bizarre. Car assez souvent, la femme de 55 ans qui veut avoir un enfant par cette méthode. Donc, vous savez comment on fait. Cette femme ne peut plus avoir d'ovule. Donc, elle achète un ovule d'une jeune femme qu'elle fait féconder par un sperme d'un donneur. Une fois, ça a été en France par son frère, car elle voulait que ça reste dans la famille. Donc, en d'autres termes, une manière...
Son enfant sera son neveu, en fait.
Voilà, en quelque sorte.
C'est pour une ça manière, que pour aller chercher à l'école, ça pose moins de problèmes.
C'était aux États-Unis, voilà, ils sont allés faire aux
à l'école,
États-Unis.
Au lieu de dire vous êtes la mère, vous dites que vous êtes la tante.
Ils l'ont fait aux États-Unis, mais...
Oui, ils ne l'ont pas fait en France.
Je voudrais simplement résumer peu une vision de la société que ça représente. Alors, voilà, on est dans une société qui est merveilleuse, extraordinaire. Les femmes sont actives. Les femmes, quand elles sont jeunes, au moment où elles ovulent ou au moment où elles peuvent avoir des enfants, comme il faut qu'elles fassent leur carrière, elles font leur carrière. Et puis, comme ça, elles gagnent beaucoup, 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 beaucoup d'argent. Et ça, c'est merveilleux. Car quand elles ne peuvent plus avoir d'enfants, elles ont assez d'argent pour en acheter un ovule à une autre. Quelle belle société nous avons!
Mais alors, vous avez raison. Mais, alors, le clonage.
D'une façon générale, est-ce que la science doit respecter, en gros, la nature ou pas ? Enfin, c'est ça le problème que ça pose.
Oui, alors non. Honnêtement, non. Dans ma morale, le respect de la nature n'intervient pas. Vous savez, lorsque la médecine progresse, rien n'est plus naturel que la mort des femmes en couche par fièvre puerpérale. Les microbes sont très naturels, l'infection est très naturelle, les antibiotiques que l'on donne aux femmes pour éviter cela, c'est pas naturel, la vaccination, c'est pas naturel, etc., etc. Donc, de toute façon, la médecine, en permanence, elle a essayé de combattre la dureté de la nature. Moi, non, ma morale, c'est... Ce qui est important, c'est le souci de l'autre, mais y compris des générations futures. C'est-à-dire que l'autre n'est pas important, voilà, simplement quand il vit aujourd'hui et dans ma proximité, celui que je ne connais pas, il est important aussi, et celui qui n'est pas encore né, il est important. Donc, je réintroduis l'environnement, et ça, il y a un philosophe qui a exprimé cela très très bien, qui est Hans Jonas, il a dit « fais en sorte de léguer à nos générations futures une terre compatible avec l'épanouissement d'une vie authentiquement humaine. Ça, c'est une injonction morale, naturellement.
Et pour ce qui est de l'homme aussi, vous... D'une certaine façon, dans le livre, il y a un certain bon sens et une raison aux différents âges de la vie. Vous citez Victor Hugo, le jeune homme est beau, mais le vieillard est grand. Dans le cas d'une femme de 60 ans qui veut avoir un enfant, il y a quand même, moralement ou intérieurement, une difficulté à assumer les âges de la vie.
Non ? C'est vrai, absolument. Mais honnêtement, je peux me dire que si c'était quelqu'un qui m'était très proche, je lui déconseillerais de faire cela. Mais la société n'a pas à mettre un tabou moral sur ce désir. Ce désir a une certaine légitimité.
Mais il y a aussi un désir, ça, par là, après, on peut aussi partir sur le désir d'enfant parfait.
Alors ça, c'est une autre question qui est, je crois, une dérive de notre société. Notre société est très fière de ce qu'elle peut faire. Notre société nous dit aujourd'hui la science, la technique, tout ce que l'on sait.
Même.
Honnêtement, il n'y a plus aucun obstacle qui soit infranchissable. On peut tout faire. Et si l'on peut tout faire, la mort devient un échec. Et aujourd'hui, un des problèmes de la mort, c'est qu'elle est vécue comme un échec. Et d'ailleurs, l'échec irréductible. Et d'autre part, si on peut tout faire, la naissance d'un enfant qui ne correspond pas aux normes est vécue aussi comme un échec. Et la conséquence, c'est incontestablement une espèce de pression eugénique de notre société.
Alors justement, cet enfant n'était pas parfait, cela dit.
On l'a gardé.
Il en est réduit à faire de l'humour dans cette émission.
Et voyez combien c'est important d'ailleurs de ne pas les éliminer tous.